des parchiotes qui vont concerner le Mishkan. Ça va aller jusqu'à la fin de Shemot.
Bonsoir.
Bonsoir. Et donc, c'est le sujet de toute la deuxième partie du Shemot. L'autre sujet, malheureusement, c'est le veau d'or. Il y a une marloquette. Pour savoir si le Mishkan est une réponse au veau d'or, si vous voulez, ou si le Mishkan, c'est simplement les conséquences de l'acceptation par les Bnei Israël de la Torah et du rapport avec Hachem. Et du coup, Hachem a décidé d'avoir une espèce de tête de pont parmi les Bnei Israël. Le pasouk dit « Vasuli migdash v'shachanti betocham ». Le pasouk dit « Ils me feront un migdash », on peut traduire par « sanctuaire »,« v'shachanti » et « je résiderai ». Shachanti, c'est, on entend la shrina derrière, et ma résidence, je résiderai le Toham parmi eux. Le E, ça correspond à, ce sont ceux qui reçoivent l'ordre, Vaasuli Migdash. Vaasuli Migdash, qui sont les îles qui doivent me faire le Migdash, c'est le clan d'Israël et je résiderai parmi le clan d'Israël. Mais bien sûr, il y a la fameuse Drasha qui dit que, évidemment, si Hachem prescrit que nous lui construisions un sanctuaire qui soit aussi sa résidence, et que c'est sûr que on va pas construire la résidence divine à un bout du Machane Israël ou en dehors du Machane Israël, c'est sûr qu'on va se construire au centre. Et que tout le monde doit avoir le même rapport, toutes les tribus vont avoir le même rapport au Migdash en question. Donc il faut le mettre au centre. Par conséquent, la phrase le Shachanti Betocham, elle est un peu superflue. Et du coup, parce que c'est marqué aussi Betocham, Toch, ça veut dire à l'intérieur, quelque part. Alors, la fameuse Drasha, vous la connaissez, Hachem dit, vous allez me construire un Mishkan, mais je résiderai dans le cœur de chacun. Et si Hachem décide de résider dans le cœur de chacun, du coup, on peut se demander à quoi ça sert de fabriquer un Mishkan, alors. Si en fait ce qu'Hachem veut, c'est être dans le cœur de chacun, alors pourquoi il faut construire cette tente qui est le Mishkan? Comme si, en fait, on avait besoin d'un rappel extérieur, bien une espèce de, comme s'il y avait une tête de pont, la présence divine, elle est d'abord dans le Mishkan, puis ensuite elle rayonne et elle a pour but de rayonner et de s'installer dans le cœur de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire que je résiderai dans le cœur de chacun? Le cœur, c'est le centre des décisions. Si Hachem est dans le centre de décision, ça veut dire que les décisions que nous devons prendre, ce sont des décisions que nous prenons devant Hachem. Ça veut dire que ce qu'Hachem veut, c'est que dans toutes les décisions qu'on prend, on prenne en compte qu'on est l'Ifnei Hachem. On est dans un autre monde, en réalité. On n'est pas dans l'espace courant, quoi, si vous voulez. On est dans le monde où on est l'Ifnei Hachem. Alors, il y a des degrés de présence l'Ifnei Hachem, mais dans mon cœur, l'Ifnei Hachem. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire que je prends des décisions en sachant que je suis l'Ifnei Hachem? Alors, si on veut une approximation de cela, une idée de cela, on peut se dire, quand je prends une décision, est-ce que je peux assumer cette décision devant là où les personnes dont l'opinion m'est la plus précieuse, que ce soit mes parents, conjoints, enfants, maîtres. Est-ce que je peux assumer mes décisions, assumer mes pensées, assumer mes paroles, mes actions, d'accord, devant, c'est une première approximation, l'Ifn Hashem c'est bien plus que ça, mais disons comme première approximation, je pourrais très bien dire, voilà, je vais réfléchir et je vais me demander, est-ce que je peux assumer tout ça devant les personnes devant lesquels je veux faire bonne figure, devant lesquels il m'est très important d'apparaître comme quelqu'un de bien. Et c'est sûr que c'est déjà une grande restriction, c'est une grande contrainte, en fait, de se demander à chaque fois, est-ce que j'assume, est-ce que je... Alors, il y a eu un moment où c'était la mode. Vous demandiez quelque chose à quelqu'un et j'assume. Et en fait, ils n'assumaient rien du tout. Mais le mot assumer était devenu à la mode. Il a passé de mode, d'ailleurs. Aujourd'hui, les gens ne disent pas systématiquement sur tout ce qu'on leur dit, toutes les remarques qu'on leur fait. Hein, j'assume. Donc, tu es père et mère, oui, mais j'assume. Alors, en vérité, la question, c'est effectivement assumer les choses devant Hachem. Quand on veut construire la résidence d'Hachem, on comprend bien que, d'une certaine manière, c'est une gageure. C'est impossible. C'est d'ailleurs ce que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem. Quand Hachem lui a donné l'ordre de construire sa résidence, alors Moshe Rabbeinu a dit, mais Hashamayim, Bishmei Hashamayim, lo yikhal kelucha. Mais les cieux ne peuvent pas te contenir. Comment tu veux que je construise ta résidence? Alors, Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, Ata, toi tu fais besam manecha. Toi tu fais avec tes couleurs, en fait, avec tes crayons de couleur, tu dessines, quoi, avec tes petits bouts de bois, tes tentes, tes machins. Et moi, je m'arrange déjà pour résider là-bas. Ça, c'est pas ton job. Et je vais te dire comment tu vas construire cette résidence. Alors, la première chose, quand on veut construire, il faut avoir les matériaux. Alors, c'est ce qui est dit dans les premiers psukim de la paracha, de Vikroli Trouma, et puis ensuite, on nous dit tous les matériaux, l'or, l'argent, le cuivre, la laine teinte de cette manière ou d'autre, de bleu, d'entrelet, argaman, etc. Le lin, tordu, le lin, etc. Et puis, le gros morceau, si on peut parler comme ça, c'est les atséchitim, les fameux bois d'acacia. Les bois d'acacia, ça veut dire quoi? C'est ce qui va servir à fabriquer tous les poteaux qu'on aura besoin. Et à partir de ce bois, on va aussi construire, fabriquer tous les kélim quasiment de Beit HaMikdash. Tout ce qui n'est pas en or, en argent, va être construit. Être fabriqué à partir de ces bois d'acacia. Mais le gros problème de ces bois d'acacia, c'est d'avoir des bois qui sont extrêmement hauts. On va voir, c'est très haut, et puis les poteaux en question, très haut. Et d'où est-ce qu'on a des... Alors Rachid demande. Rachid dit, mais d'où est-ce qu'ils ont ça? Il n'a pas posé la question d'où est-ce qu'ils ont l'or, l'argent. On a emprunté aux Égyptiens, etc. Et en fait, dans les Midrashim, on voit très bien qu'il y avait toutes sortes de marchands dans le désert. Et les Israël, ils pouvaient acheter toutes sortes de choses. Mais a priori, on ne pouvait pas vraiment acheter des troncs d'arbres, enfin des arbres, des grands, gros arbres, etc. Alors, a priori, on a une... Rashi explique qu'en réalité, les Atzei Shittim, c'est Yaakov qui les a amenés d'Eretz Israël. Ils ont amené l'Eretz Israël. Alors, et il les a plantés en Égypte. Alors, est-ce qu'il est descendu avec une pépinière, des petits arbres, arbustes qui ont poussé? Est-ce qu'ils avaient le temps de pousser en Égypte? On est resté 210 ans en Égypte. C'est pas mal pour que des arbres aient le temps de pousser. Et alors, ça voudrait dire, et Jacob, il a dit à ses enfants, il leur a dit, quand vous allez être libérés, vous prendrez ces Atzei Shittim avec vous, parce que Yaakov Avinu, il a eu une vision, une voix, que les Bnei Israël allaient construire le Mishkan, qu'ils en auraient besoin. Donc, c'est très, très difficile à comprendre exactement comment. Bon, c'est sûr que Yosef, sur l'ordre de Paro, il a envoyé des chariots à Yaakov pour descendre toute la famille et tous les biens. Mais bon, pour transporter tous ces arbres, si c'était déjà des arbres, de grands arbres, on voit pas très bien ce transport, ça a l'air un peu difficile. Et d'ailleurs, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il rapporte ça, et il dit, si c'est une Kabbalah, nekabel. Si c'est une Kabbalah, alors on accepte. Mais si c'est une Svara, alors je peux proposer autre chose. Et lui et d'autres Mefarshim proposent, disent par exemple qu'au pied du Sinaï, il y avait toute une forêt d'acacia. Les Bnei Israël, ils ont coupé toute la forêt. Et c'est avec ça qu'ils ont fabriqué le Mishkan. Si on dit que c'est Yaakov Avinu qui a descendu tout ça, il a peut-être descendu sous forme de graines qu'il a plantées en Égypte. L'idée est que, ok, mais d'où est-ce que Yaakov Avinu il avait toutes ces graines? Alors, il y a des Midrashim qui disent que, en fait, c'est Avraham Avinu qui a planté tout ça. Et donc, c'est possible que Yaakov a pris ou bien les arbres d'Avraham Avinu ou les graines des arbres d'Avraham Avinu. Donc, c'est. Et Avraham Avinu, d'où il avait tout ça? Alors, c'est marqué que il a tous ces arbres, ils viennent en fait, d'Adam Arishon. Et Adam Arishon les a, ça vient du Gan Eden. De même que, par exemple, la fameuse vigne que Noach a plantée, il avait aussi d'Adam Arishon et du Gan Eden. C'est pour ça que le Gan Eden, c'est un hors du temps. Quand les Bnei Israël, quand Adam Arishon et Chava étaient dans le Gan Eden, ils ont eu leurs enfants, il n'y avait pas 9 mois de grossesse. Il y avait conception, naissance, et ça grandissait tout de suite. C'est hors du temps. Donc les arbres aussi. Quand Noah est sorti de la Teva, il a planté la vigne, elle a poussé tout de suite, parce que ça prend pas de temps, ça vient du Gan Eden, elle a produit les raisins, il a fait du vin, et il s'est enivré. Tout ça, c'était immédiatement. C'est très possible que Yaakov Avinu a pris des graines qui ensuite ont poussé très vite en Égypte. Alors pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu avait besoin de ces arbres? En fait, on sait tout ça parce que Noé, quand il a construit l'arche, ça lui a pris 120 ans. Et dans les Midrashim, c'est marqué que la construction de l'arche, elle prend au maximum 50 ans, 52 ans. Pourquoi ça lui a pris 70 ans de plus? C'est parce qu'en réalité, ces arbres, c'est Arazim, c'est les fameux cèdres du Liban, c'est la crème des arbres, si vous voulez. Et ces arbres, en fait, étaient des arbres sacrés. Les idolâtres adoraient ces arbres. Or, vous savez bien que les arbres sacrés, on ne peut rien en faire, c'est un sourbana. Il est clair que Noach n'allait pas construire la Teva avec des arbres sacrés. D'ailleurs, les Midrashim disent que les contemporains de Noach qui se moquaient de lui, lui ont dit « Tu te moques de nos arbres sacrés, etc. Et tu vas voir les arbres sacrés, ils vont te tomber sur la tête et ils vont te tuer. » En fait, Noach, comme il voulait construire et qu'il ne pouvait pas prendre ces arbres, parce que c'était les arbres sacrés, il ne pouvait pas construire la Teva avec ces arbres-là. Donc, il a été obligé de planter les arbres. Alors, les graines, il les a de Adam Arishon. Et à partir du moment où c'est lui qui les a plantées, la halakha, elle est que si vous plantez un arbre et qu'un idolâtre vient et qu'il adore votre arbre ne devient pas interdit parce que on peut pas interdire les choses qui ne vous appartiennent pas. Si on consacre à l'idolâtrie quelque chose qui ne vous appartient pas, il s'est rien passé. Et par contre, quelque chose qui n'appartient pas à celui qui l'a consacré, il s'est rien passé. Donc, les arbres qui appartenaient à Noé, même si les idolâtres se sont prosternés sur ces arbres-là, etc., ça n'avait aucune importance. Ils ne pouvaient pas les rendre interdits parce qu'ils appartenaient à Noach. Donc c'est ça, Noach, il a construit la Teva de cette manière-là, avec ces arbres-là. Et c'est ça les 70 ans. Alors là-bas, ça a pris 70 ans, je ne sais pas pourquoi, parce que puisque ça venait du Gan Eden, on aurait pu imaginer que ça pousse tout de suite, tout seul. Bon, ça a pris 70 ans, et donc ces 70 ans de la croissance des arbres, ajouté aux 50 ans de construction de l'arche, ça vous fait les 120 ans de construction qui sont considérés consacrés à la construction de l'arche. Même chose pour Abraham Avinu. Avinu, il était aussi, semble-t-il, les fameux ces cèdres étaient tellement splendides et tout, qu'évidemment, ils ont fait l'objet d'un culte. Et donc, si on voulait faire quelque chose, il fallait absolument planter soi-même les arbres. Je ne sais pas, c'est une parenthèse. Je vous ai raconté déjà qu'il y a un Zohar qui dit que Eretz Israël, si Eretz Israël est complanté, ça veut dire s'il y a des arbres, ça appartient à Israël. Et si sur cette terre il n'y a pas d'arbre, ça appartient à Ishmaël. La terre d'Israël, elle appartient à Ishmaël quand elle est désertique, quand elle n'est pas complantée. Qu'est-ce que ça veut dire planter des arbres? Est-ce que ça veut dire planter des hommes, c'est-à-dire des grands hommes, etc.? Tout ça, ça discute, ça fait partie de l'étude de ce texte du Zohar. Mais on peut penser, justement, que quand on parle de il n'y a pas d'arbres, pourquoi il n'y aurait pas d'arbres? Les autres aussi plantent des arbres. Mais peut-être l'histoire, c'est il n'y a pas d'arbres parce que les arbres sont les arbres sacrés. Donc si nous plantons nous-mêmes nos arbres, et d'ailleurs on voit très bien, quand vous arriverez en Eretz Israël, la Torah elle dit, vous planterez des arbres. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'avoir des arbres qui ne sont pas des arbres sacrés. D'ailleurs, quand les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, la seule chose qu'ils ont dû absolument détruire, c'est les misbechot, les autels, et les arbres sacrés. Tout le reste, on a récupéré. Fin de la parenthèse. Donc, c'est Hatzéchitim. Ils sont arrivés comme ci ou comme ça, peu importe, de façon... Enfin, en tout cas, c'était très important que ce soit des arbres qui n'aient pas fait l'objet d'un culte, qui n'aient pas devenu des arbres sacrés. Donc ça fait partie de la liste des travaux, des matériaux nécessaires pour la construction. Ensuite, le passouk dit très clairement... Pasouk Chet, tout début de la paracha, va sous les migdash ve shachanti betocham, et que chol asher ani mare otcha et tavnit amishkan ve tavnit kol kelav ve chen ta'asu. C'est un pasouk intéressant qui dit tout de suite que vous allez construire, mais ani mare otcha, ça veut dire à toi, Moshe Rabbeinu, je vais te montrer Tavnit HaMishkan, la forme du Mishkan, Tavnit Kol Kelav, Tavnit de tout le mobilier du Mishkan et les Kelim, les ustensiles, etc., qui seront utilisés. Vrenta Asu, c'est comme ça que vous ferez. Comme ça veut dire Kenta Asu, fait l'autre, et pas autrement. Le Vrenta Asu ici, il se retrouve dans Vechenas à Aaron quand il a fait exactement ce qu'on lui a prescrit dans Baalotra, etc. Velagid Shvarochel Aaron Sheloshina, que Aaron il n'a pas changé quoi que ce soit à ce qui lui avait été ordonné. Pourquoi il changerait? Alors, ici on a. Pourquoi changer? Pourquoi Aaron changerait-il? On dit le Shevar qu'il n'a pas changé. On a vu dans la paracha de Beshalach, dans la Shira, le fameux pasouk Zekeli Vandehu. De ce pasouk, on déduit la mitzvah d'embellir les mitzvot. Tu te fabriqueras un beau talit, un beau lulav, un bel etrog, une belle menorah, etc. Embellir. Et ça, c'est vrai pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, elles sont susceptibles d'être embellies. Et puis après, on va discuter éventuellement de quelles dépenses supplémentaires on a le droit de faire pour embellir par rapport à la valeur de l'objet en question qu'on embellit, quel pourcentage on a le droit d'ajouter, etc. Mais il y a une exception. Et l'exception, c'est le Mishkan. Ça va être après le Beit Hamikdash, mais le Mishkan. Dans le Mishkan, tout ce qui concerne le Mishkan, tu ne peux pas embellir. C'est ça, Kentas, vous ferez exactement ce que je vous prescris. Alors c'est frustrant, parce que imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, le plus beau diamant du monde. Qu'est-ce qu'on va faire du plus beau diamant du monde si ce n'est on va l'enchasser sur le Kaporet. On va le mettre entre les Krouvim, là-bas. Et si tu fais ça, c'est Avodah Zara. On a vu déjà dans la fin de Parshat Yitro que si tu penses que les Krouvim seraient plus beaux en argent et tu les fais en argent, c'est Avodah Zara. Je t'ai dit de les faire en or. Si tu penses que deux, c'est pas mal, mais si on en faisait quatre, ça serait mieux, ce serait Avodah Zara. Tu fais exactement. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon, le vrai pourquoi, j'en sais rien. Mais on peut penser que la raison pour laquelle on peut rien faire, c'est parce que on joue avec le feu, là. C'est très proche des pratiques idolâtres. On va construire une résidence de la divinité, ben, l'avdil, l'élève avdalot. Les goïms, ils font ça, les idolâtres, ils font ça avec toutes leurs idoles, les temples consacrés à telle ou telle idole. Et donc, bon, mais le Rambam Maïmonide pense que tous les korbanot et tout ça, c'est une concession à l'esprit du temps. Les Bnei Israël, on ne pouvait pas leur demander de ne faire aucune représentation, rien du tout. Trop difficile, trop abstrait. Ils avaient besoin de faire quelque chose. Alors, Hachem a prescrit exactement ce qu'il voulait. Et du coup, si tu ne fais pas exactement ce que je t'ai dit de faire, alors c'est Avoda Zara. Ça devient étranger. Du coup, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est marqué. Renta Asu, vous ferez exactement ça. Alors, immédiatement après les psukim qui parlent du matériau, des matériaux qu'il fallait récolter, on donne les premières choses. La première chose à faire, Vasu Aaron Aseshitim. Vous ferez un Aaron. Un Aaron, c'est une boîte. Alors, l'hébreu moderne, c'est une armoire. Alors, l'armoire, elle sera elle aussi donc en bois d'acacia. Elle aura comme dimension Amataim Vachetzi, deux amot et demi. Alors, si je prends une ama de 50 cm, en gros, pour faciliter les choses, une ama, c'est entre 40 et 60, quelque part, on va prendre 50. Si on prend 50, amataim vachetzi, ça fait 1,25 m, si je ne me trompe pas. 1,25 m de long. Et puis, ama vachetzi rorbo et ama vachetzi komato. C'est-à-dire 75 cm de largeur et de hauteur. Donc, c'est vraiment une armoirette, comment faut dire. Elle a 1,25 m de long et 75 cm d'épaisseur et de hauteur. De largeur et de hauteur. Et puis, vous allez, cette armoire en bois, vous allez la recouvrir à l'intérieur et à l'extérieur d'or. Donc, en d'autres termes, ça se présente comme ça. On fait trois boîtes. Une boîte en or, une boîte un tout petit peu plus large, plus grande, en bois. On met la boîte en or dans la boîte en bois. On fait une boîte en or un peu plus grande que la boîte en bois. Et on met la boîte en bois, qui contient déjà la boîte en or, dans la grande boîte en or. Donc, de l'extérieur, c'est de l'or. De l'intérieur, c'est de l'or. Et au milieu, c'est du bois. Et vous ferez une petite couronne en or. Bien, alors, je saute. Et la deuxième chose, c'est verset 23. Vasita shulchan atsechitim. Amataim orko, veama rochbo, veama vachetzi komato. Et là aussi, vitsipita auto zahav, c'est toujours du bois recouvert d'or, etc. Là, on nous donne les dimensions. Alors, la table en question, alors, elle a amataim de longueur, deux amot de longueur, donc un mètre de longueur. Vehama rochbo, un mètre de largeur, c'est une table donc carrée. Pardon, pas vrai. 2 sur 1, rectangle. Vehama vachetzi komato. Et la hauteur de la table, c'est ama vachetzi, c'est 75 cm. La troisième chose qu'on va fabriquer, c'est la menorah. Alors là aussi, on nous donne l'image, enfin les éléments. C'est une menorah. avec une branche centrale et trois branches de chaque côté, etc., avec des décorations, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, finalement, on nous donne des mesures. C'est très bien, mais pourquoi est-ce que c'est devenu Torah ? Que as-tu besoin des mesures ? Je comprends. Mais pourquoi c'est devenu un Torah ? Le Mishkan, on ne va plus jamais construire un Mishkan. Quand on va construire le Beth Amikdash, il n'aura pas les dimensions du Mishkan. Donc ces dimensions-là qui nous sont données, on doit se demander évidemment à quoi elles servent. Si vous voulez, en tant que texte de Torah, ça va faire l'objet de l'étude, on ne comprend pas très bien en quoi c'est tellement important de consacrer du temps à nous dire exactement quelles sont les dimensions, etc. Sauf pour les gens qui veulent en faire une maquette à l'échelle, etc. Peu importe, mais à quoi ça sert ? L'autre meuble, si on peut parler comme ça, dont on nous donne aussi les mesures, c'est le Mizbeach. Bon, le Mizbeach, il faut aller un peu plus loin dans le texte, il faut aller au Chavav. Non, Chavzain Pasuk Aleph, pardon. On parle du Mizbeach. Ben, si tu as ta Mizbeach, Atsechitim, toujours en bois de Kutchitim. Chamesh Amot Orech. Chamesh Amot Rochav. Donc parfaitement carré. 5 Amot sur 5 Amot. Donc 5 sur 5, c'est 2 mètres 5 sur 2 mètres 5. C'est pas bien grand, hein. Ravoua y est, il doit être carré. Le Shalosh Amot Komato. Et la hauteur totale, c'est 3 Amot, 1,50 m. Donc il est à 1,50 m du sol. Et il a 5 sur 5 Amot. C'est-à-dire 2,5 m sur 2,5 m. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir la chose suivante. Les mesures qui nous sont données, qui concernent le Aaron HaKodesh, vous vous souvenez, ce sont toutes des mesures qui sont dites avec des demi-amot. Amataim Vachetzi Orko, Ama Vachetzi Orbo, Ama Vachetzi Komato. Donc, les mesures du Aaron sont toujours données avec des virgules 5, quoi. Si vous voulez, des demi, avec des demi. Dans le Shulchan, c'est marqué Amataim Orko, c'est un chiffre rond. Amar Orbo, un chiffre rond, et Amar Vachetzi Komato. Mais une Amar et demi de hauteur. Donc dans le Shulchan, vous avez des mesures entières et une mesure avec des demi, des moitiés. Quant au Mizbeach, lui, il est entièrement avec des mesures entières, 5 par 5 par 3. Donc, c'est évidemment très important de voir que vous avez le Mizbeach qui est avec des mesures entières. Le Shulchan, c'est mitigé, moitié-moitié, enfin pas moitié-moitié, mais mélangé. Et le Aaron, c'est avec que des moitiés. Le Rav Banel, il dit que dans ces mesures, dans les détails de la construction, de la fabrication par exemple du mobilier, mais aussi en réalité, on va le dire, sur le Mishkan lui-même, sur la tente elle-même. Il y a des ramazim, il y a des allusions, beaucoup d'allusions, mais d'arke à Torah et à Avoda, sur les chemins de la Torah et du service d'Hachem. Le Avraham Hanel, il commente ce passage que je vous ai cité, qui dit que Chol Asher Ani Mare Otra et Tavnit Amishkan et Tavnit Kol Kelav Renta Asu. Tout ce que je te montrerai. Avraham Hanel dit Akadosh Baruch Hu Era le Moshe Bahar, quand Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne, Hachem lui a montré Sodot Hametziut Vesidra Vedarke HaTorah Vetalumea Talumotea, pardon. Lachen odi Akan Shakol Aya Nirmaz Bemlechet HaMishkan. Donc, les secrets, Hachem les a donnés à Moshe Rabbeinu, et les choses sont dites de façon allusive dans le texte de la Torah. C'est pour ça que le texte nous dit, c'est tout ce que je t'ai montré, et tu feras exactement comme ça. Parce que ces mesures, elles ne sont pas dites au hasard. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de hasard. On voit très bien qu'il y a une shita ici, une différence entre le misbeh, le shulchan, et le Aaron HaKodesh, l'Aaron qui contient la Torah, contient en vérité les tables de la loi et aussi un Sefer Torah. Et donc, on doit réfléchir. Je vais demander à quoi ça sert. Il faut réfléchir. Justement, à ces mesures-là, si elles sont données, ça doit être un objet d'étude. Parce que ça ne nous intéresse pas, on n'en a pas besoin pour construire le Mishkan. Ils l'ont construit, le Mishkan. On ne va plus jamais construire le Mishkan, a priori, à ce que je sache. Donc, ces différences-là, entre les mesures avec des demi, le mixte, et les mesures avec des chiffres entiers, on doit évidemment se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Kli Yakar, il parle de ça, et il dit, Amrou Achachamim. Achachamim ont dit Le Maalot Abet Le Maala Mimcha. Quand tu envisages, quand tu comprends qu'il y a des degrés, regarde vers le haut. Ki Aliede Ze Idme Benafsho Kiou Chaser Minash Lemut Velo Igial Madrigat Chavero. Yavo leitkanot bo Yosef al shlemut chokhmato ikina sofrim tarbe chokhma. Dans le domaine des midot, dans le domaine spirituel, regarde vers le haut et tu verras que l'autre il est meilleur que toi et ça t'incitera, tu seras jaloux de cette supériorité et ça t'incitera à faire mieux parce qu'on dit ikina sofrim. La jalousie des sofrim, hein, les uns à l'égard des autres, tarbe chokhma, elle va augmenter la chokhma. On va dire, moi aussi je vais y arriver. Je peux aussi être aussi bon que l'autre. Ça c'est dans les domaines, travail sur les midot et dans la spiritualité. Alors, b'inyan ha'olam, b'inyan ha'olam, azé, c'est-à-dire kol hatzlachot agufaniot, dit le Kli Yakar, toutes les réussites physiques, que Rocher, le Kavod, la richesse, la gloire, c'est à quel bémiche ou le matin, Mimen. Regarde ceux qui sont en dessous de toi. Et donc, réjouis-toi de ce que tu as. Tu comprends que yesh li rav, j'ai plus que beaucoup d'autres. C'est-à-dire, amida ashlema mora al argashat shlemut bemakom araouila. C'est-à-dire, quand c'est entier, alors ça indique le sentiment d'être en paix, d'être bien, serein, à l'endroit, lorsque c'est bien de l'être. Vilu amida achatsuya, mais quand on parle des demi, c'est moré à l'argashat chisaron bemakom araouila. C'est-à-dire, ça donne le sentiment que ben on c'est pas complet quoi, seulement la moitié. Vid ba'er dit kli yakar, klal ze bechol kli ou kli lefi inyano. Et donc en fonction de la du rôle de chaque kli, de chaque meuble, chacun des meubles, que ce soit comme on a dit, que ce soit le haron, le shulchan ou le misbeach, on va appeler ça le mobilier du Mishkan, et de tous les kélim, chaque fois que faut regarder les mesures, regarder à quoi ça sert, etc., et en fonction du contexte, comprendre pourquoi on a là des mesures entières et pourquoi là on a des mesures avec des moitiés. Le Aaron, on a remarqué que les mesures du Aaron sont toutes les trois avec des demi, toujours Amataim ou Ama Vachetzi. Alors, on va expliquer d'abord le Aaron. Dans le Aaron, il y a, comme on a, je vous l'ai dit, il y a les louchot, c'est-à-dire, à terme, il va y avoir les louchot reçus, les deuxièmes louchot, et les brisures des premières, plus le Sefer Torah de référence. Donc, Moshe Rabbeinu va écrire un Sefer Torah pour chacune des tribus. Le 13e Sefer Torah, il sera mis dans le Aaron avec les Louchot. Donc, évidemment, le Aaron, il fait référence au Resek HaTorah, à l'étude de la Torah, et à la façon dont il faut l'étudier. Et donc, puisque les mesures sont de moitié à chaque fois, ça nous enseigne, il faut avoir cette argasha, il faut sentir que pour celui qui étudie la Torah, il faut qu'il sente qu'en réalité, il doit encore monter. On est toujours à moitié. Il manque toujours une partie. On n'a jamais fini, c'est jamais terminé. Et donc, il faudra ressentir sa petitesse par rapport au sechel. Le sechel haenoshi, l'esprit humain, il est petit par rapport à la puissance, à la profondeur, à la hauteur de la Torah, qui est divine, évidemment. Et donc, de cette manière-là, c'est ça le limoud des mesures du Aaron HaKodesh qui concernent le limoud de la Torah. C'est savoir toujours que je suis qu'à moitié et je dois m'améliorer et je dois progresser. Et plus celui qui étudie prendra conscience de ses manques dans l'étude de la Torah, dans la connaissance de la Torah, plus son âme, en quelque sorte, voudra s'approcher d'Hachem. Et donc, voudra étudier plus, et ça développera la Yira aussi. Parce que c'est ça le Karki Darka Shel Torah. Ce qui est dit par David Ameler, qui dit « Mon âme est la soif », etc. Vous connaissez ça. Et alors, il y a une sgoula particulière, en fait, dans le Limouda Torah de cette manière-là. D'accord, donc ressentir le faire en sorte qu'on ressente cette soif et ce désir d'avancer là-dedans, de grandir. C'est parce que l'homme, il agit de cette manière-là. Alors, premièrement, il va faire attention de conserver ce qu'il a déjà en lui, qu'il a déjà étudié, pour ne pas l'oublier. Comme le Gaon dit que, il dit sur le pasouk de Michelet, via le Nosar Libcha, Vazanchal Imrei Da'at, le Gaon dit, Kol Davar, Shelev Adam Mitave, toute chose que le cœur de l'homme désire, Umagmat Nafsho Elea, et son âme en a envie, en quelque sorte, Oto Davar Mitkayem, cette chose-là, elle est durable. Shenken Imlo Yasser Libo, le Zé, mais si on n'arrive pas à faire en sorte que ce soit un désir du cœur, etc., ça ne tiendra pas. Klomar, Achuka la Sagot, ou le Malot no Safot, le désir d'accéder à des niveaux supérieurs, Hi Atzma Siba le Kiyuma Torah. C'est une cause à la durée, au fait que la Torah va rester chez la personne. Et elle va se conserver, donc il faut développer cette chouka, ce désir de Torah. Sans le désir de Torah, dit le Gaon, on va oublier ce qu'on a. Bon, ça va pas. Ça c'est pour les mesures avec des moitiés de Amot du Aaron, donc de l'étude de la Torah. Dans le Shulchan, on a vu que le Shulchan, c'est mixte. Il y a des dimensions entières et des dimensions. Il y a une dimension avec des demi-amot. Le Shulchan, c'est le rapport de l'homme avec ses biens, avec son argent, avec ses biens. C'est la parnassa. Mais l'homme doit savoir que tout ce qu'on a dit là précédemment, c'est au niveau spirituel. Là-bas, effectivement, il faut toujours avoir le sentiment que il m'en manque encore. Je suis en état de manque. Mais dans les biens matériels, sham ruya lo argashat hashlemut v'asova. Il faut développer le. Ça suffit. J'en ai. Yesh li kol. Oui. Pensez que voilà, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et ça, on l'apprend des mesures de la table, qui sont partiellement pour la dimension de la table elle-même, du plateau de la table, c'est de dimension entière. Parce que le Shulchan, c'est ce qui représente la réussite d'Israël dans les domaines matériels. Rocher, Kavod, dans la Mazé. Le Kli Yakar, il dit « Ashulchan amramez le Keter Malchut ». Le Shulchan, il représente la couronne de la Malchut. Il y a le Keter Torah qui est le Aaron, et le Keter Malchut qui est le Shulchan. « Le Chol Atzlachat Ha'enoshiyut, Asher Yisrael Zochin Lahem, Mishulchan Gavoa ». Mais ce qui est très important, c'est ces derniers mots, Zochin Mishulchan Gavoa. C'est les choses qui viennent d'Hachem. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut comprendre que voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Mais tout ce que j'ai, je l'ai reçu d'Hachem. Donc, les mesures entières du plateau de la table, elles disent à l'homme, concerne que voilà, c'est Shalem, c'est tout ce qu'il faut. Mais d'un autre côté, il y a une mesure qui est avec une demi-ama, c'est la hauteur de la table. Alors il dit, qui a Adam Asher Zekeu Aboreid Barach Bemamon Uban Chassim, l'homme auquel Hachem a donné des biens, Av She'alav Le'argish Kimi She'nitan Lo Kol Tzorko, d'un côté, il faut qu'il ressente, j'ai tout ce dont j'ai besoin, mais Kol Makom Ve'yechaso El Zulato Allo Lomar Belibo Ine Gam Chaveri Nitmale Chelko Ma She'yesh Lo Dailo Ve'nitzarech Le Klum. Et non, c'est le clou. Bon, mais ça, tu peux le dire pour toi. Et quand tu regardes ce que l'autre a, tu ne dois pas te dire, ben lui aussi, il a reçu tout ce dont il a besoin. Et par conséquent, je n'ai pas besoin de l'aider. Bon. Le raisonnement, j'ai que le shulchan, les biens matériels, c'est shalem, ça veut dire j'ai tout ce qu'il faut, je peux me l'appliquer à moi, mais pas à l'autre. À l'autre, je dois être soucieux de vérifier qu'il a vraiment tout. Donc, c'est ça la bonne conduite, si vous voulez, au niveau de la hauteur. Il y a une mesure. La mesure, c'est le problème de la hauteur. N'oublie pas, est-ce que l'autre, il est aussi à cette même hauteur? Le fameux enseignement d'Rabbi Israël Salanter qui disait que les besoins matériels de l'autre sont mes besoins spirituels. Et le troisième, c'est le Mizbeach. Misbeach, il apporte la capara sur les fautes. C'est-à-dire qu'il remet l'homme dans un état de shlemout, perfection. Toutes les mesures sont entières. Il y a une mala ruchanit dans laquelle l'homme doit ressentir que c'est shalem, c'est plein, c'est j'ai tout. Sans aucune... Il n'y a aucune dimension qui a des demi-amotes. C'est le processus de purification de la faute. On apprend ça des midotes, donc des mesures du Mizbeach. Mizman chez Bet HaMikdash Aya Kayam. Quand Bet HaMikdash existait, Aya Mizbeach Mechaper al Israël, le Mizbeach apportait la kapara au clan d'Israël. Les Achram, c'est le purifier, au sens de, on enlève les scories, et aussi la purification de Tahara, de toutes les fautes. Umaouta kapara hi ashlamat achisaron anotsara le dechet. Ça veut dire quoi, la kapara? Obtenir la kapara, c'est-à-dire obtenir que les manques qui ont été générés par les fautes commises disparaissent. Les Chazal disent que le mot chet ou milachon chisaron ou pgam. Chet, ça veut dire c'est un manque, un défaut. Et donc, revenir à l'ashlemout, donc c'est ça le travail à faire. Le Prime Vital dans le Shara Kedusha, il dit qui keneged remach evarim. Agashmiim, Yeshnam, Remach, Evarim, Ruchanim. Même qu'il y a 248 membres du corps matériel, si on veut, il y en a aussi, il y a aussi 248 membres spirituels. Chez Binyanam, Mishlemutam, Notsrim, Aliede, Kiyum, Remach, Mitzvot. et la construction de ses membres et la perfection de ses membres, elle dépend des 248 mitzotassés dans la Torah. Par conséquent, celui auquel il manque une mitzvah, il abîme, il lui manque aussi un membre au niveau spirituel. Et donc, quand quelqu'un obtient la kapara sur les fautes qu'il a faites, alors le manque est comblé, et donc le membre spirituel, il est reconstitué, il est de nouveau parfait. Mais seulement dans le problème de la kapara sur les fautes, dans la hargasha, dans le ressenti de cette shlemout, de cette perfection dont on parle à partir des mesures complètes du Mizbeach, on trouve qu'il y a aussi une mida avec des demi-mesures en quelque sorte. C'est le fait que dans les korbanot du Tzibour, dans tous les korbanot que le Tzibour apporte, Shabbat, Tophet, etc., c'est financé par le fameux Marsit HaShekel, le demi-shekel que chacun doit donner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Ad shelo itkaper achet, alachote le'argish bechol nafsho et achisaron, et abgam asher pagam ba'atzmo. Zehu shoresh kaparato, shema'achar she'ikar avodat ha'korbanot, il ha'ashlim et achisaron, she'u chata. Donc, le problème de la kapara, c'est que celui qui a fauté, tant qu'il n'a pas obtenu la kapara, il doit ressentir le manque que ça représente dans sa avoda. Et les korbanot qu'on doit approcher, ils viennent compenser les manques. Donc celui qui veut obtenir kapara, il faut d'abord qu'il ressente le manque qu'il a causé par sa faute. Donc, il doit, comme il dit, libo nishbar, ça veut dire son cœur doit être brisé, jusqu'à ce qu'il mérite d'obtenir la kapara. C'est ça que le Marsit HaShekel vient nous dire. Ça veut dire que les korbanot sont un peu cette dimension de mahatzit, de moitié. Qu'il faut avoir pour obtenir la kapara. Le Mizbeach lui-même, il te donne une kapara complète. Mais le Mizbeach, sur le Mizbeach, il faut apporter des korbanot. Et les korbanot que le Klal Israël apporte, en tout cas les korbanot Tzibour, c'est-à-dire en fait, on parle ici des manques que la conduite de chacun crée, bon, pour soi, mais surtout qui crée à l'intérieur du Klal Israël. Parce qu'on ne parle pas ici des korbanot privés, on parle des korbanot publics. Marsit HaShekel, il ne sert pas à l'achat des korbanot privés, il sert seulement à l'achat des korbanot publics. Donc celui qui faute, il va devoir s'occuper de l'effet que la faute a sur lui-même en particulier, mais aussi de l'impact que le pgam qu'il a causé, le défaut qu'il a fabriqué dans le Klal Israël, ce défaut-là, lui aussi, il faut qu'il soit réparé. Et lui, il va être réparé par les korbanot du Tzibour. Les korbanot du Tzibour, ils sont financés par le Marsit HaShekel. Donc chacun, à titre individuel, participe à ces korbanot du Tzibour pour réparer l'impact des fautes qu'il a faites, l'impact à l'échelle du Klal. Donc, pour résumer ce point-là, en ce qui concerne le matériel, on doit considérer qu'on a tout, soi-même, mais pas l'autre. Pour l'autre, il faut regarder, est-ce qu'il a vraiment tout? Et pas dire, lui aussi, si moi j'ai tout, lui aussi il a tout. Est-ce que le misbéach, il est le misbéach pour tout le monde? Ou là, pardon, là, le shulchan, c'est le shulchan de tout le monde. Non, mais c'est le problème de la hauteur, n'oublie pas que tout le monde n'est pas à la même hauteur. Et il y a un problème, effectivement, de la hauteur la hauteur à laquelle se place le plateau de l'autre. Lui, pour lui-même, il peut considérer qu'il a tout. Mais si toi, tu vois que s'il n'a pas tout, tu dois l'aider. Il y a encore un sujet que je voudrais voir avec vous. Il y a tellement de sujets là-dessus. Mais je vais regarder ce sujet-là. Est-ce que je le retrouve ? Alors, toujours dans les premiers psukim, quand on a reçu l'ordre donc de fabriquer le Aaron, donc la boîte dans laquelle il y aura les Luchot et le Sefer Torah, le pasuk dit: dans le verset 21, donc du chapitre 25, Venatata et Akaporet al Aaron Milmala, tu mettras le couvercle du Aaron au-dessus donc de la boîte en question. Et l'Aaron est dans le Aaron, avant d'y mettre le couvercle, évidemment, Titen et Aedut. Tu mettras le témoignage, littéralement, Asher Eten Elecha, que je te donnerai. C'est quoi l'Aedut, le témoignage? C'est les Luchot Aedut. La Torah, elle appelle ça Aedut, le témoignage. Ce sont les Luchot Aedut. Asher Eten Elecha. C'est curieux, n'est-ce pas? Puisque ici, on dit Asher Eten Elecha. C'est un futur. Tu mettras les luchot que je te donnerai. Donc, on a l'impression que ce texte-là, il a été écrit, et il concerne avant le don de la Torah. Cher Eten Elecha, c'est un futur. Bon, mais c'était pas vraiment le sujet. Rachid dit sur Venatata el Aaron et Aedut. Rashi dit, « A Torah, she'il eidut, beni ou benechem, she'tziviti etchem mitzvot aktuvot ba. » Donc, Rashi, il n'a pas voulu dire que eidut, c'est les luchot. Alors, bien sûr, c'est, on parle des luchot, mais le mot eidut, la Torah témoigne entre moi et vous, dit Hachem, que je vous ai donné les mitzvot qui sont écrites dedans, qui sont écrites dans la Torah. C'est-à-dire le fait que dans la Torah, les mitzvot soient écrites, alors c'est comme si la Torah témoignait que je vous ai vraiment donné des mitzvot. Je tziviti etrem mitzvot aktuvot ba. Comme si, sinon, quelle est la preuve que je vous ai donné des mitzvot? La preuve que je vous ai donné des mitzvot, c'est que c'est écrit dans la Torah que je vous ai donné ces mitzvot. C'est la Torah en tant que Edout sur les mitzvot. Alors, le Rav Volbeï, il avait soulevé le problème suivant. Nous disons dans les tfilot, surtout Yom Tov, on dit Kadshenu b'mitzvotecha. Sanctifie-nous, on demande à Hachem, Kadshenu b'mitzvotecha. Sanctifie-nous avec tes mitzvot. Alors, cette formule-là, elle est un peu problématique parce que quand nous faisons une mitzvah, nous disons Hachem kilishanu b'mitzvotav. Hachem nous a sanctifié b'mitzvotav. Et donc, voilà, il nous a sanctifié en nous donnant des mitzvot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « kachenu b'mitzvotera » On demande « kachenu sanctifie-nous des mitzvot ». Alors, il expliquait qu'il faut comprendre que l'action des mitzvot, c'est quoi? C'est comment l'effet d'une mitzvah? L'effet de la mitzvah, c'est iridat ashkina alein. C'est-à-dire, quand je fais une mitzvah, je fais descendre en quelque sorte la présence divine sur moi. Et pourquoi ça marche comme ça? Ou mitzad ma shei mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est mitzvah? C'est qu'il y a un me souvé, c'est moi. Mais il y a un metzavé, Hachem, le Boré Olam, le créateur du monde, Tziva Ota, c'est lui qui a ordonné cette mitzvah. Et de ce fait, Kidshanu b'mitzvotav, c'est-à-dire, parce qu'il nous a donné ses mitzvot, il nous a sanctifié avec ses mitzvot. Mais que chol ma she'adam mitbonen ve'yodea yoter ki a mitzvah shu ose nitzave al yedei borei olam mitbarach yoter mitkadesh. Plus l'homme réfléchit que la mitzvah qu'il est en train de faire, elle lui a été donnée par Hachem, plus il se sanctifie en fait. Je suis en train de faire ce que Hachem m'a demandé de faire. C'est ça la sanctification. Du coup, par exemple, un goy qui va mettre les tefilines, il n'y a pas même de chefetz shel mitzvah. Il n'est pas du tout, il est en train de mettre des lanières. Puisqu'il n'a pas reçu la mitzvah, c'est rien du tout. Même si dans les petites boîtes noires, il y a exactement tout ce qu'il faut, les parchures qu'il faut, même si c'est parfaitement noir, parfaitement cubique, enfin au carré, dans la section, et les lanières sont parfaites, etc. Tout est parfait. Mais c'est rien du tout. Ça n'a aucun impact. Et là-dessus, on peut demander à Hachem Kadshenu b'mitzvotera. C'est-à-dire, aide-moi à comprendre de mieux en mieux, de plus en plus, que la mitzvah, c'est ce que le metzavé m'a ordonné à moi qui suis son metzavé. Que Hachem m'a donné la mitzvah. Le Kuzari, il dit Shetismach be mitzvah atzma me'avatcha ametzaveh ba. Tu peux te réjouir avec la mitzvah elle-même parce que tu aimes celui qui t'a donné cette mitzvah. Je me réjouis d'avoir reçu de celui que j'aime cette mitzvah. Alors, d'où vient cette ahara chez la metzavé betoch ha-mitzvah? Ça vient de la Torah elle-même. L'omdim ota veyodim et tzivui et tzivuyei Hashem. Quand on étudie la Torah, alors on comprend de ce que la Torah nous dit que la mitzvah c'est un tzivui d'Hashem. D'abord, al bnei Israël, Hashem dit à Moshe Rabbeinu, dis au bnei Israël ce que je te dis de leur dire. Et c'est pour ça que la Torah est bien le témoignage qui nous est adressé en quelque sorte, que c'est Hachem qui nous a ordonné les mitzvot. Où est-ce que je le sais? Comment je prends conscience que les mitzvot viennent d'Hachem? Il ne faut pas considérer que les mitzvot, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné. Il est bien l'intermédiaire par lequel on a appris ces mitzvot. Mais c'est Hachem qui nous les a donnés, c'est Hachem qui nous les donne en permanence, ces mitzvot. Neda, limtso itbarach betocha mitzvot. Grâce à ce que la Torah nous dit, on va comprendre que dans la mitzvah, ce que je vous ai souvent expliqué, que le mot mitzvah, vous vous souvenez, il se lit metzavé, metzouvé et mitzvah. C'est la même graphie. Le metzavé, celui qui donne l'ordre. Le metzouvé, celui qui reçoit l'ordre. Et l'ordre lui-même. Tout ça, ça s'écrit même tzadik vav he. Et donc, quand tu lis, il y a une mitzvah, Hachem t'a donné une mitzvah, tu dois entendre ce triplet-là, metzavé, mitzvah dirigée vers le metzouvé. Et pas simplement penser, là, c'est une mitzvah. Ça veut dire c'est une mitzvah. Ouais, c'est un commandement. Mais il faut à chaque fois se rappeler de qui vient ce commandement. Parce que sinon, c'est une mitzvah, ok, c'est une mitzvah. Mais ce geste-là, il a aucun pouvoir. C'est n'importe quoi. Si ce n'est que c'est prescrit par Hachem. Il n'y a pas d'effet magique dans les tfilin ou dans les tzitzit ou dans le Nérode de Shabbat, ça fait rien du tout. Si ce n'est que c'est une mitzvah qu'Hachem nous a donnée. Et donc, il faut se rendre conscient, et le moyen de se rendre conscient de cela, le vrai moyen, c'est de voir que dans la Torah, la Torah nous dit Hachem t'a donné cette mitzvah. Et doute, témoignage. D'après le Maharal dit, c'est kiyum beporal. Le véritable accomplissement. L'orak sipur dvarim bifne beddin. Quand on témoigne devant un tribunal, on fait une édoute. On vient témoigner devant un tribunal. C'est quoi, dit Maharal? Ce n'est pas que je raconte la chose devant le Bédine. Mais c'est comme si le Bédine voyait lui-même le maasé devant lui. Alpi ha'edim, par la bouche des témoins. Ça veut dire qu'il s'agit de... C'est presque comme si les témoins devaient jouer la scène comme une espèce de reconstitution de ce qui s'est passé devant le tribunal. Ça veut dire, ils doivent, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen? Uniquement la parole. C'est-à-dire, ça va demander l'imagination du tribunal pour se représenter à partir du témoignage des témoins, la situation. C'est pour ça que le Beit Din, il va interroger les témoins. Dans l'interrogation qui est faite aux témoins, c'est il faut vérifier que ce que je m'imagine à partir de la parole des témoins est vrai. Donc il faut que je fasse parler le témoin pour qu'il enlève tous les doutes que je peux avoir sur la représentation, si je suis le Beit Din, sur la représentation que le Beit Din peut avoir à partir de ce que dit le témoin. C'est pas savoir s'il ment ou pas. Bien sûr, si on voit que c'est incohérent, ça tient pas à la route, ça tient. Ok, alors ça veut dire on peut tenir aucun compte de ce qu'il a dit, donc il n'y a pas lieu de se représenter quoi que ce soit. Alors il va y avoir, il y a tout un travail dans cette notion de témoignage. Parce qu'il y a la fameuse histoire des Edim Zomemin. Edim Zomemin, ce sont des témoins qui sont venus raconter au Beit Din quelque chose. Et ça a parfaitement marché. Le Beit Din, il est allé jusqu'à condamner la personne sur la foi des témoins. Donc ça veut dire que le Beit Din, il a une représentation parfaite qui a été induite chez eux par le récit des témoins. Et tout à coup, patatras, on apprend que les témoins n'étaient pas les témoins. Ils n'étaient pas là. Mais ça ne veut pas dire que la chose était fausse. Peut-être que les témoins, eux, n'ont pas vu de leurs yeux. Mais ceux qui ont vu de leurs yeux leur ont représenté les choses d'une façon parfaite, au point que eux, excellents acteurs, ont pu transmettre presque sans bruit, ça veut dire sans déviation par rapport à ce que les autres leur avaient dit. Et c'est peut-être tout à fait vrai. On n'en sait rien, c'est tout. Seulement, ils sont disqualifiés parce qu'ils n'étaient pas témoins, parce que le tribunal ne peut pas juger sur un témoignage qui est Edut Mipi Ed. Un Ed Mipi Ed, c'est pas cacher. Je suis témoin, mais en vérité, je ne l'ai pas vu moi-même, mais celui qui me l'a dit, je lui fais absolument confiance. Et celui qui me l'a dit, il a vu la chose. Imaginez, la Gemara, elle apporte toujours la même preuve. Vous avez Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Ils voient A qui tue B. Ils ne peuvent pas témoigner, ils sont deux frères. Alors, supposez que l'un d'entre eux dise à son neveu ou à son... dise à quelqu'un. Moi, je suis venu de la dire à Yoshua. Écoute, c'est comme ça, c'est passé comme ça et comme ça. Alors, tu vas aller, toi, avec Aaron, et vous allez témoigner. Et Yoshua, c'est un élève parfait de mon cher Rabbeinu. Il va dire exactement, il va rendre compte exactement ce dont mon cher Rabbeinu a vu. Et donc lui et Aaron, ils disent quelque chose qui est la pure vérité. Seulement, ils ne sont pas cachers. Parce que Yoshua, il est « Eds mipi Eds ». Ce n'est pas qu'il dit des mensonges. Hein. Il est simplement, c'est un menteur au sens où il n'est pas témoin. Mais ce qu'il dit est probablement vrai. Puisque c'est Moshe Rabbeinu qui l'a vu et qui lui a dit. Donc on voit très bien qu'il ne suffit pas d'être capable de faire en sorte que le tribunal puisse se représenter les choses de façon parfaite. Il faut que ce soit la résultante de ce que les témoins ont vu eux-mêmes. Donc celui qui va produire le témoignage, il faut qu'il soit vraiment celui qui a vu la chose. Et donc la Torah, elle est vraiment, c'est la Torah d'Hachem, donc ça, c'est vraiment, ça montre vraiment qu'Hachem nous a ordonné ces mitzvot. C'est ça que Rashi a dit. On mettra dans le Aaron et ta edut. Asher eten elecha. C'est pas, donc on a l'impression qu'on ne va pas y mettre quelque chose qui est une information. Ce n'est pas l'information qui est importante. C'est de dire comment cette information elle nous est arrivée, en fait. Comment cette information, cet ordre, que cette information, etc. Comment le contenu nous est arrivé. Voilà, ce contenu que j'ai reçu, je l'ai reçu d'Hachem. Et c'est ça, la Kdusha qu'on a reçue. La Kdusha des Mitzvot. Elle vient de ce que chaque mitzvah est produite par un metzavé, par le metzavé, par Akadosh Baruch Hu. Sinon, c'est rien du tout. Absolument rien. Voilà. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Good Shabbos.